Selon les Écritures. Selon les Écritures, le père Alain Marchadour, bibliste, dialogue avec Pierre-Yves Révillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission biblique Selon les Écritures. Pierre-Yves Révillon au micro, avec le père Alain Marchadour, bibliste.
Bonjour père Alain.
Bonjour Pierre-Yves.
Caïn, où est ton frère Abel ? Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ? Le fratricide d'Abel par Caïn est une des plus grandes pages de la Bible, qui a inspiré artistes et écrivains. Qui ne connaît le célèbre vers de Victor Hugo « L'œil était dans la tombe et regardait Caïn ». Ce récit de la Genèse nous parle de la difficulté de toujours à vivre la fraternité en famille et en société. Nous relisons ce texte magnifique et inspirant au chapitre 4 de la Genèse, versets 1 à 16 dans la Bible de Jérusalem. L'homme connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai acquis un homme de par Yahvé ». Elle donna aussi le jour à Abel, frère de Caïn. Or, Abel devint pasteur de petit bétail, et Caïn cultivait le sol. Le temps passa, et il advint que Caïn présenta des produits du sol en offrande à Yahvé, et qu'Abel, de son côté, offrit des premiers-nés de son troupeau, et même de leur graisse. Or, Yahvé agréa Abel et son offrande. Mais il n'agréa pas Caïn et son offrande, et Caïn en fut très irrité et eut le visage abattu. Yahvé dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu es bien disposé, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu n'es pas bien disposé, le péché n'est-il pas à ta porte, une bête tapie qui te convoite? Pourras-tu la dominer ?» Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dehors !» Et comme ils étaient en pleine campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Yahvé dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Yahvé reprit, « Qu'as-tu fait ? Écoute le sang de ton frère crier vers moi du sol. » Maintenant, sois maudit et chassé du sol fertile qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Si tu cultives le sol, il ne te donnera plus son produit. Tu seras un errant parcourant la terre. Alors Caïn dit à Yahvé, « Ma peine est trop lourde à porter. Vois, tu me bannis aujourd'hui du sol fertile. Je devrais me cacher loin de ta face, et je serai un errant parcourant la terre. Mais le premier venu me tuera. » Yahvé lui répondit, « Aussi bien, si quelqu'un tue Caïn, on le vengera sept fois. » Et Yahvé mit un signe sur Caïn, afin que le premier venu ne frappât point. Caïn se retira de la présence de Yahvé et séjourna au pays de Nod, à l'Orient d'Éden. Comme tous les grands textes bibliques, ce récit nous semble familier, mais sa lecture a peut-être réservé quelques surprises à nos auditeurs et soulevé des questions. Avant de le reprendre pas à pas, pourriez-vous, Père Alain, nous préciser son origine et le resituer dans les Écritures ?
Alors bien sûr, c'est une question qui demanderait de longs développements. Je me contente peut-être de souligner deux ou trois points pour nous aider à mieux comprendre. Ces textes de premiers chapitres de la Genèse, dont fait partie donc l'histoire de Caïn et Abel, sont nés au retour d'exil. Ce sont des textes qui ont été façonnés, donc qui ont une grande densité théologique et humaine parce que, et religieuse, parce qu'ils sont au terme, on pourrait dire, de la construction de la Bible. Donc ici, ils rentrent d'exil, beaucoup de contacts avec le monde de l'exil. C'est clair que les Hébreux vont trouver une littérature très riche en Mésopotamie. Et là, ce texte, il a certainement beaucoup de contacts. Il raconte, au fond, la naissance de la violence dans le monde, que beaucoup de peuples ont raconté, des oppositions entre des gens, des paysans, des gardiens de moutons. Enfin, ce sont des choses qu'on trouve dans beaucoup de cultures. Ici, c'est ramassé avec une densité très forte, évidemment, et avec beaucoup de paradoxes aussi, beaucoup de questions.
Alors, ce texte frappe par sa grande concision. Tout est dit en peu de mots et des silences qui sont parfois un peu troublants. Brièvement, on peut distinguer deux parties. Une première partie narrative qui inclut quelques brefs propos d'Ève, de Caïn et de Yahvé. Et elle culmine avec le meurtre d'Abel qui ne dit rien. Il ne va pas dire un mot de tout le récit. Et la deuxième partie est un dialogue entre Yahvé et Caïn. Dès les premiers versets, tous les personnages sont connus et le récit commence par la conception et la naissance de Caïn. Sa mère, Ève, dit seulement « J'ai acquis un homme de par Yahvé ». Que signifie cette phrase énigmatique ?
Il ne faut jamais oublier que la langue hébraïque est une langue très, très directe, très matérielle, pourrait-on dire. Le nom Caïn vient d'une racine en hébreu. Cana, ça veut dire acquérir. Donc « j'ai acquis ». Mais au-delà de cette explication étymologique, ce qui est quand même intéressant de se dire que le récit de Caïn et Abel est focalisé sur Caïn. Caïn est le personnage, on pourrait dire, central avec Dieu, et le débat se joue entre lui et Dieu. Et Abel, il n'a pas d'identité personnelle. Alors là aussi, si on regarde l'étymologie, Abel en hébreu, Evel Avalim, c'est le nom du cantique, comment s'appelle-t-il déjà, le vanité des vanités, Evel Avalim.
Coëlette.
Et donc, il est rien, et si vous regardez bien, il n'a aucune identité. C'est Caïn qui est au cœur du récit, et c'est le rapprochement entre Dieu et Caïn qui fait la force du récit. Abel, il subit d'une certaine manière, il est silencieux, il n'a pas de rôle. C'est Caïn qui est au cœur de ce récit. Et c'est évidemment très instructif pour comprendre.
Oui, il y a un des sens d'Abel, c'est la buée.
Abel, c'est le vent, c'est la vanité, c'est ce qui n'a pas d'identité, c'est ce qui... D'ailleurs, regardez bien, il n'est que le frère de Caïn.
Et puis il dit pas un mot.
Il n'est pas un mot, mais quand on trouve ça dans les récits, c'est fréquent dans la Bible. Hein. Si vous regardez Marthe et Marie, Marie n'était que la sœur de Marthe. Caïn, il est le maître, il est le dialoguant. Et toute l'intrigue, on va peut-être y toucher dans notre développement, toute l'intrigue du récit, c'est au fond comment celui qui est proche de Dieu, puisqu'il a été acquis avec sa mère et Dieu, c'est quand même très fort comme texte, comment va-t-il répondre au questionnement que Dieu va lui faire.
Alors il y a une différence aussi entre les deux frères, c'est que Caïn cultivait la terre et qu'Abel était pasteur de petit bétail. Est-ce que ça n'évoque pas la traditionnelle rivalité entre agriculteurs et pasteurs ? Qu'en était-il à l'époque de l'auteur ?
Oui, ça c'est tout à fait classique, c'est-à-dire dans les sociétés anciennes, on a souvent eu l'opposition entre les sédentaires et puis les nomades. Les sédentaires vont commencer à se mettre en place assez tard. Hein. Pendant longtemps, les hommes vont se déplacer. Et quand ils vont se sédentariser avec des fermes, avec des animaux, il va y avoir l'opposition entre ceux qui sont dans les champs, qui travaillent les champs, et ceux qui se déplacent, les nomades. Et ici, nous avons un bel exemple de ce que l'on trouve dans beaucoup de civilisations. Ce n'est pas une originalité sur ce plan-là. Mmh. Elle n'est pas là, l'originalité du texte. Elle est ailleurs.
Alors, justement, après, chacun des frères va offrir à Dieu des offrandes, des produits de la terre, hein, de l'élevage, etc. Cette offrande, il se passe quelque chose qui apparaît de très injuste à ce moment-là, puisque Dieu agrée l'offrande d'Abel et pas celle de Caïn. et il ne donne aucune explication sur sa préférence. Est-ce que la colère d'Caïn est quand même pas parfaitement légitime ?
Alors ça, vous touchez du doigt ce qu'a été une des énigmes de ce texte, et les commentateurs juifs vont beaucoup développer cette partie-là. Et ils vont inscrire dans le texte, insérer dans le texte, comme ils savent le faire souvent, des éléments qui n'y sont pas. C'est-à-dire, ils vont montrer que Caïn avait fauté, qu'il y avait des fautes de son côté, qu'il avait offert des choses qui n'étaient pas bonnes, et que Dieu, au fond, là aussi c'est très matériel et c'est très... On pourrait dire que c'est très rudimentaire. On a l'impression que Dieu a rejeté le sacrifice de Caïn parce qu'il ne sentait pas bon. Puisque quand on a beaucoup ça dans la Bible, hein, on dit qu'il faut qu'il y ait un parfum qui se dégage quand on offre un sacrifice à Dieu. Et donc apparemment ici, qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu n'a pas apprécié l'odeur de ce que lui a offert. Peut-être ça peut être aussi en lien, les rabbins ont cherché de faire ce rapport, on avait condamné un peu le pain dans le Adam et Ève, disant tu mangeras ton pain à la sueur de ton front, tu gagneras ta vie à la sueur de ton travail. Donc, est-ce qu'il a offert quelque chose qui n'était pas à la hauteur de Dieu ? C'est un mystère. Et ça nous montre bien, au fond, que c'est un départ. Ce qui est plus important, c'est ce qui va s'en suivre. C'est-à-dire, comment réagir quand on a le sentiment que Dieu nous rejette d'une certaine manière, alors que nous ne comprenons pas.
Alors effectivement, on a l'impression qu'Yahvé ne comprend pas la jalousie, parce que c'est la jalousie qui est en jeu finalement là derrière, et il demande à Caïn pourquoi il est irrité, et il le place devant un dilemme dans le verset 7 que je relis, « Si tu es bien disposé, ne relèveras-tu pas la tête ? Mais si tu n'es pas bien disposé, le péché n'est-il pas à la porte une bête tapie qui te convoite ? Pourras-tu la dominer ?» Votre confrère exégète Jean Lourd écrit que beaucoup d'exégètes considèrent ce verset 7 comme le plus difficile de toute la Genèse. Comment peut-on le décrypter ?
Je pense que c'est vrai. C'est un passage très compliqué et les rabbins ont cherché à introduire d'autres éléments dans le texte comme ils savent le faire. Ils vont trouver une explication. Il faut absolument comprendre mieux cette réaction. Alors, moi, je vous donne une des pistes que l'on peut creuser parce qu'on a lire. Comme vous le savez, c'est toujours dire autre chose que le texte, sinon on n'aurait rien à dire. Or, ici, qu'est-ce qui peut justifier, au fond, ce dialogue entre Dieu et Caïn ? Est-ce que ce ne serait pas une façon, alors vous allez trouver peut-être que c'est paradoxal ce que je vais dire, est-ce que ça ne serait pas une façon de relativiser tout ce qui est de l'ordre du rituel et du rite ou des sacrifices ? Est-ce que ça ne serait pas une manière de dire, au fond, ce n'est pas ça qui est important ? Il a refusé ton sacrifice, essaie d'en profiter pour grandir, d'être disposé et que ton cœur soit ouvert et non pas enfermé dans la jalousie face à ton frère dont le sacrifice a été offert, a été accepté, le tient pas. Donc une certaine relativisation du cultuel et peut-être, pour aller jusqu'à aujourd'hui, le danger au fond des religions quand elles se durcissent dans leurs pratiques et qu'elles s'opposent les unes aux autres. Oui, comme si Dieu lui-même relativisait au fond tout ce qui est l'ordre du rite religieux.
Alors, finalement, le drame va se jouer et c'est la première fois, on vient de le lire, c'est la première fois que le mot « péché » Atat en hébreu, est employé dans la Bible. Et il concerne justement ce fratricide que Caïn va commettre. Ouais. C'est-à-dire un acte de jalousie et de violence parmi les plus graves qui soient. Que peut-on en déduire sur la conception biblique du péché ?
D'abord, on peut déjà dire que le mot péché, c'est un mot moderne qui n'est pas biblique. En hébreu, le mot qui est en hébreu, il veut dire être révolté. Il y a trois mots pour dire le péché en hébreu. Vous avez le révolté, vous avez l'égaré, et vous avez le tordu. Le péché, c'est ces trois facettes, on pourrait dire. Ici, on pourrait dire c'est le révolté. Caïn se révolte parce qu'il est jaloux de son frère. On est en train de voir naître, au fond, la violence entre les peuples et avec ce refus de Caïn d'accepter, au fond, d'aller où Dieu veut le conduire. Parce qu'il est quand même le proche de Dieu. On n'a pas peut-être assez insisté sur la première phrase, mais quand elle dit « sa femme conçut » Deux, j'ai acquis un homme par Yahvé. Le lien entre Caïn et Dieu est très fort. alors qu'Abel n'est pas mis en rapport.
J'ai vu même que des exégètes pensaient que c'était presque un demi-dieu.
Ben oui, il y a quelque chose de ça, c'est-à-dire, c'est pour ça que le dialogue et l'enjeu, ça va être ça. Et le drame, et puis bien sûr, le premier meurtre, au fond. Et on pourrait dire, mais il faudrait aussi relire, tous les chapitres sont reliés de chapitre 1 au chapitre 11, c'est-à-dire la mort annoncée à Adam et Ève est en train d'entrer. La première chose qu'invente l'homme en sortant du jardin, c'est la mort. C'est quand même pas rien. Le premier geste qui se joue avec la fraternité qui est en jeu, quand l'homme commence à vivre dans la société, le premier geste, c'est le meurtre. Au commencement était le meurtre. C'est pas rien quand même ça. Mmh. Et ça éclaire beaucoup, si vous voulez. C'était vrai à Rome aussi, hein, entre les deux frères se sont disputés pour des mêmes raisons. C'était très proche. Mmh. Ici, c'est au commencement était le meurtre.
Alors, on a souvent vu en Caïn et Abel des frères ennemis. Mais est-ce que c'est bien le cas, finalement? Abel n'est-il pas seulement la victime innocente de son frère?
Abel n'a pas de rôle. Encore une fois, vous l'avez vu, Abel, c'est la vanité. C'est l'ombre. Il n'a pas d'existence. Donc, c'est évidemment la fraternité qui est en jeu, l'un tuant l'autre, et le tuant avec une dureté quand même, hein, c'est la mort. Comme je vous disais, c'est d'une certaine manière, on pourrait dire la violence est intolérable et elle est inévitable. C'est là qu'on touche le mystère de l'homme. Violence intolérable et violence inévitable. À travers les commencements disent ce qui va advenir. C'est ça la force des récits de commencement. Ils disent ce qui après va advenir. Et peut-être un petit éclairage. En hébreu, vous allez me dire, je fais beaucoup d'hébreu, mais la langue hébraïque est intéressante parce qu'elle permet de dire des choses. Lorsque Dieu crie à Abel, à Caïn, le sang de ton frère est monté jusqu'à moi. On trouve souvent après cette
monté
formule.
Monté du sol.
Du sol est monté jusqu'à moi. Eh bien, en hébreu, le mot sang, c'est pas pour une raison, je crois que c'est la langue, hein, pour une raison étonnante, est au pluriel. Les sangs de ton frère sont montés jusqu'à moi. Et les commentateurs juifs, ils ont un art d'interpréter. Ils disent oui, parce que il n'y a pas que le sang d'Abel qui monte vers moi. Tous les sangs que vous allez verser dans toute l'histoire du monde, ils remontent jusqu'à moi. Et donc c'est une façon de dire, ce qui se joue là avec Caïn et Abel, ça n'est pas un incident particulier, c'est une sorte de symbole qui traverse toute l'histoire, et à chaque fois qu'un homme est tué, le sang monte vers moi, et c'est moi qui va le protéger et punir celui qui a fait ça.
Alors après, on arrive au verset 9, où on a l'impression que Caïn va chercher un peu à s'exonérer de ce qu'il a fait. Yahvé lui dit « Où est ton frère Abel ?» et il répond « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?»
Oui, c'est assez terrible comme phrase aussi, c'est-à-dire... Dieu ne laisse pas passer la chose. C'est là qu'il lui dit, donc, écoute le sang de ton frère qui crie vers moi. C'est-à-dire, tu ne peux pas te libérer. Le sang crie vers moi. C'est vers moi que la violence vient. Donc, c'est le châtiment qui va venir. Et là, on voit bien qu'on est entré dans le schéma de la violence. Comment, à partir d'une violence qui est inévitable dans le monde... Comment conjurer la violence? Voilà, c'est un des aspects aussi du texte qui nous pose cette grande question. Comment vivre en société sans que la violence provoque la destruction complète de la société? Ici, c'est la mort. On est dans une logique, on pourrait dire d'ailleurs en passant, je ne sais pas si vous vous en êtes aperçu, mais je pense que oui, parce que vous êtes un bon bibliste. Est-ce que vous êtes aperçu que depuis le début de la Genèse, il y a une montée de la violence progressive? C'est-à-dire, comme si on nous décrivait... Avant Abraham, comme si on nous décrivait un monde finalement qui a du mal à vivre la fidélité à Dieu. Et...
Alors après, effectivement, Yahvé va sanctionner. Caïn est maudit, il est chassé du sol fertile, il va devenir un errant qui parcourt la terre, il risque de se faire tuer à son tour compte tenu de ce qu'il a fait. Est-ce que cela ne rappelle-t-il pas ce qui est arrivé à Adam ?
Bon, un petit peu, sauf qu'ici, c'est démultiplié, si vous voulez. C'est-à-dire, Adam s'est condamné à mort alors qu'il était appelé à vivre. Ici, c'est une multiplication sept fois. Si quelqu'un tue Caïn, on le vengera sept fois. C'est-à-dire, on est dans une démarche où la violence va devoir se conjurer et elle n'aboutira finalement qu'au moment où on va faire la loi. On est au commencement, on apparaît ici tout ce qui est de l'ordre de la loi, c'est-à-dire la loi. La loi, c'est ce qui permet de conjurer la violence et de la limiter. La loi dit, si on t'a tué, tu as le droit de tuer l'autre, mais pas plus. Ça, c'est intéressant, c'est un progrès.
Voilà, on arrive au terme de cette émission. Il y aura encore énormément de choses à dire sur ce grand défi de la fraternité, finalement, parce que c'est bien ça l'enjeu de ce texte. Merci à vous, Père Alain Marchadour, pour nous avoir fait partager vos connaissances. Merci à Yannick Galupini qui assurait la réalisation. Cette émission sera rediffusée dans la semaine et elle peut être réécoutée à tout moment en podcast sur le site web radioprésence.com. Si vous souhaitez réagir ou nous interroger, vous pouvez envoyer un mail à selonlesecritures@radioprésence.com. Nous vous donnerons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Selon les Écritures.